Radio Kapi.
Les informations, Jocelyne Moussaoupone. Le président de la République est arrivé ce jeudi à Paris pour participer à la conférence internationale de soutien à la paix et à la prospérité dans la région des Grands Lacs. Cette rencontre vise à replacer la question congolaise au centre du débat mondial. À Goma, le mobile money s'impose comme une alternative aux banques, une activité devenue très lucrative pour les agents, mais qui suscite des plaintes en raison des fortes commissions prélevées sur les retraits. Le Centre de recherche en finances publiques et développement local, CREFEDEL, plaide pour la dissolution du Fonds spécial de réparation et d'indemnisation des victimes des activités de l'Ouganda en RDC. Frivaour, Christelle Ntimba, chargée de communication du CREFEDEL et membre du consortium Le Congo n'est pas à vendre, est notre invitée. Bonsoir à tous. Le président de la République, Félix Tshisekedi, est arrivé à Paris en France ce jeudi en vue de prendre part, aux côtés de plusieurs dirigeants du monde, à la conférence de soutien à la paix et à la prospérité dans la région des Grands Lacs, organisée en étroite collaboration avec le Togo, dont le président du Conseil des ministres est le médiateur désigné de l'Union africaine dans la crise dans l'Est de la RDC. Ces assises de Paris replacent la question congolaise au centre du débat international. Elles reconnaissent la nature de la crise sécuritaire en RDC et tiennent à mobiliser la communauté internationale autour d'une paix juste, durable et conforme au droit international. On écoute les explications de Tina Salama, porte-parole du chef de l'État, au micro d'Alain Irung.
Avant la conférence de Paris, le président Emmanuel Macron va recevoir le président Tshisekedi en entretien bilatéral, ou on va dire en tripartite, en tout cas avec le médiateur désigné par l'Union africaine pour la crise dans la partie est du pays, Fornia Singbe. Mais alors nous, en tant que pays RDC, en tout cas, nous visons à obtenir, comme nous l'avions dit très souvent, un engagement international plus ferme pour la mise en œuvre de la résolution 2773 du Conseil de sécurité des Nations Unies qui exige, vous le savez, le retrait immédiat du M23 et des forces rwandaises du territoire congolais. Alors nous voulons rappeler en tout cas que la crise que nous vivons actuellement n'est pas interne, mais plutôt une agression extérieure prolongée. Et nous déplorons en tout cas des déplacements massifs des populations dans le nord et le sud. Kivu. Aujourd'hui, on parle, tous les rapports en tout cas les certifient, près de 7 millions de déplacés internes. Nous sommes, nous RDC aujourd'hui, le troisième pays au monde avec les plus de déplacés internes. Nous avons également plus de 26 millions de personnes qui sont en insécurité alimentaire. On parle également de la malnutrition chronique qui touche les enfants.
Pendant ce temps, ici au pays, en Ituri précisément, une cache d'armes appartenant à la milice Convention pour la Révolution Populaire, CRP de Thomas Lubanga, a été découverte par les forces armées à Mabanga, dans le territoire de Djougou. Selon les FARDC, ces armes et munitions auraient été dissimulées par ces groupes armés après leur débâcle lors des opérations militaires menées dimanche dernier dans cette région minière. Le porte-parole de l'armée, le lieutenant Jules Ngongo, affirme que l'objectif de ces opérations est de pacifier la zone et restaurer l'autorité de l'État, longtemps mise à mal par la présence de groupes armés. Le lieutenant Jules Ngongo est au micro de Martial Kiza.
Grâce à la vigilance et au professionnalisme de nos troupes, la fouille a permis la récupération d'un lot significatif d'armes et de munitions de guerre composées de 8 fusils d'assaut de type AK-47, 2 fusils d'assaut de type AK-56, 1 pistolet mitrailleur de type Uzi, 18 chargeurs garnis, un lot important de munitions de différents calibres. Cette opération s'inscrit dans le cadre de la poursuite des efforts de pacification. Au nom du commandant des opérations et gouverneur militaire de la province de l'Ituri, le lieutenant-général Luboyanka Chamadjouni félicite ces hommes pour leur sens élevé du devoir, leur discipline et leur détermination à restaurer la paix et la sécurité dans cette partie du territoire national. Les opérations se poursuivent pour éradiquer toute forme de menace de groupes armés.
À Goma, le téléphone portable ne sert plus seulement à communiquer, c'est aussi devenu un véritable outil gagne-pain. Le mobile money s'impose aujourd'hui comme l'un des business les plus rentables dans la ville, dans un contexte où les banques et coopératives restent inaccessibles. Cependant, la population déplore les commissions exigées par les opérateurs pour chaque retrait. Les dites commissions varient entre 4 et 5% du montant. Pour un retrait de 1000 dollars, par exemple, une retenue de 50 dollars est appliquée. Denise Loukesso s'est intéressée à cette activité en pleine expansion et nous propose ce reportage.
Sur les boulevards Kanyamuranga, menant vers la Grande Barrière, ce sont des fils qu'on trouve devant les kiosques des mobile money. Transfert d'argent, retrait, paiement, chaque opération rapporte une petite commission aux agents, parfois plusieurs dizaines de milliers de francs congolais par jour. Tout comme dans d'autres quartiers de la ville, ce sont les maisons de transfert qui fleurissent. Un agent de mobile money témoigne sous anonymat qu'avec cette opération, il gagne chaque jour. Les gens viennent du matin au soir, surtout les fonctionnaires en fin du mois, et les commerçants. Les principaux opérateurs M-Pesa, Airtel Money et Orange Money se disputent ces marchés en pleine expansion. Dans un contexte où les banques restent peu accessibles, les mobile money deviennent donc la banque du peuple. Selon un économiste, les mobile money créent non seulement de l'emploi, facilitent les paiements et stimulent les petits commerces. Cependant, il estime qu'il faut plus de sécurité et de liquidité pour soutenir cette croissance. Les mobile money, un business qui paye aujourd'hui à Goma, mais qui exige vigilance et confiance. Le reste, c'est la clientèle qui fait la différence, d'après cet économiste.
Merci, chère Denise. Au Maniema, la deuxième édition de la conférence sur les mines, l'énergie et les infrastructures est confirmée pour le 3 novembre prochain. Cette confirmation est de l'autorité provinciale devant la presse locale hier mercredi. L'activité vise à promouvoir l'image de la province avec ses potentialités afin de créer un environnement favorable et attirer les investisseurs nationaux et internationaux. Moussa Kabankobi Moïse invite tous les partenaires ainsi que les fils et filles du Maniema, y compris ceux de la diaspora, à s'approprier pleinement cette initiative. On l'écoute au micro de Florence Kizalunga.
Il s'agit de faire la promotion sur les potentialités de la province en termes des ressources minières, énergétiques et faire l'état des lieux des infrastructures qui constituent pour nous un frein essentiel à l'essor de la province. Alors, à la population d'Imaniema, où qu'elle se trouve, de s'approprier cette conférence, pour moi, c'est l'une des voies plausibles pour sortir notre province de la pauvreté. Donc, je demande à la population, aux partenaires, de s'approprier cette initiative parce que nous avons besoin de toutes les intelligences, de les mettre ensemble et de trouver les voies et moyens de faire exploiter nos minéraux, non pas comme ils sont exploités aujourd'hui de manière artisanale, parce que ça n'a pas beaucoup de retombées sur le vécu quotidien de la population, mais comment faire en sorte que désormais nous ayons des entreprises minières industrielles qui puissent engager nos jeunes et nos femmes afin de lutter contre la pauvreté.
Quelle est la stratégie nationale sur la gestion des minerais de la transition énergétique et comment ces minerais pourraient profiter d'abord à la RDC qu'à l'extérieur? Telles sont les préoccupations de l'ONG Resource Matters ce jeudi au cours de la 9e édition de l'Alternative Mining in Daba qui se tient à Lubumbashi. Les réponses à ces préoccupations figurent dans le livre blanc qui sera publié prochainement par cette ONG. Jimmy Mangouriek Ufoy, directeur pays des Resource Matters, s'exprime au micro de Paula Monanga.
Il est important que le gouvernement puisse avoir une politique de gestion. Parce que sans une politique, sans une stratégie de gestion, on sera en train de naviguer en vue et on va perdre toutes les opportunités de tirer les bénéfices de ces minéraux de la transition énergétique. Et c'est ça le contenu même de ce livre blanc. À terme, des éléments que nous avons estimés importants, qui doivent figurer dans cette stratégie, c'est d'abord la vision même du gouvernement sur les minéraux de la transition énergétique. Pourquoi nous exploitons les minéraux de la transition énergétique? Pourquoi nous voulons commercialiser ça? Quel est l'objectif que nous poursuivons? Parce que jusque-là, on voit que l'exploitation actuelle a plus bénéficié à l'extérieur qu'au pays. Même dans les zones minières aujourd'hui, les communautés restent encore très pauvres. L'environnement, elle est détruite. On doit savoir pourquoi on exploite ça. Également, on doit voir tous les éléments par rapport aux investisseurs. Quels sont les investisseurs que nous voulons alors finalement attirer pour ces minéraux stratégiques? Parce qu'on a des investisseurs et des investisseurs. Il y a d'autres qui investissent ça, que cela profite au pays qui nous voulons attirer, qui nous voulons voir exploiter nos minéraux.
Le troisième forum économique entre la République démocratique du Congo et l'Angola se tiendra en février 2026 à Mwanda, dans le Congo central. Un rendez-vous stratégique destiné à poser les bases d'une coopération renforcée entre les deux pays. Cette décision fait suite à la mission du vice-premier ministre et ministre de l'économie nationale, Daniel Mokoko Samba, qui s'est entretenu à Luanda avec plusieurs membres du gouvernement angolais. Les échanges ont porté sur la levée des obstacles au commerce transfrontalier et sur la valorisation du potentiel économique partagé. Objectif, relancer les échanges commerciaux encore trop faibles malgré une frontière commune de plus de 2600 km et de liens historiques et culturels profonds. Le compte-rendu de Blaise Makassi.
Accompagné du haut représentant du chef de l'État, Tony Kankou, Daniel Mokoko Samba a rencontré notamment le ministre de la Planification, Victor Hugo Guillaume, le ministre de l'Industrie et du Commerce, Victor Fernandez, la ministre de la Pêche et des Ressources Marines, Carmen Sacramento Neto, ainsi que le ministre d'État à la Coordination Économique, José de Lima Massano. Parmi les sujets abordés, les produits de la pêche, les barrières au commerce formel et la relance du partenariat avec la compagnie pétrolière publique Sonangol. Sur la question de la pêche, un échange fructueux a eu lieu avec Carmen Sacramento Neto afin de faciliter l'accès à l'information pour les importateurs privés congolais. Ce forum vise à redynamiser les relations entre Kinshasa et Luanda dans un esprit de complémentarité économique et d'intégration régionale. Il permettra également d'aborder les enjeux commerciaux communs et de renforcer les synergies entre les deux économies.
En santé, la mutuelle de santé des enseignants de l'EPSP, MESP, a lancé officiellement ses activités pour la province du Kasaï central hier mercredi. L'activité a eu lieu à Kananga, chef-lieu de la province. La mutuelle vise à assurer les soins de santé des enseignants matriculés et payés, ainsi que des membres de leur famille, soit 4 membres par enseignant. Des détails dans ce reportage que nous propose André Kadende.
La mutuelle de santé des enseignants de l'EPSP, MESEP en sigle, est enfin arrivée au Kasaï central 14 ans après sa création. La cérémonie de l'installation a eu lieu en présence des enseignants, responsables des syndicats des enseignants, responsables des structures sanitaires ainsi que des autorités administratives, éducatives et sanitaires de la province. Les enseignants ont salué l'arrivée de la mutuelle et attendent d'elle un bon service. Jonas Kabinda, l'un d'eux, émet le vœu de voir la MESEP offrir les soins de qualité.
Ce que nous pouvons demander, c'est accueillir avec humanisme les enseignants qui pourront être malades. Ce que nous ne souhaitons pas voir dans l'exercice de cette mutuelle, c'est simplement de le dérapage.
Le coordonnateur provincial de la MESEP invite les enseignants du Kasaï central déjà éligibles au service sanitaire de se faire identifier pour en bénéficier. Joseph Bopé.
Tout enseignant payé par l'État est d'office membre de la MESP. Mais ce qui lui reste à faire, c'est d'arriver au centre d'identification de la mutuelle de santé, se faire identifier.
Signalons que la MESEP offre ses services dans un premier temps aux enseignants de la province éducationnelle Kasaï Central 1 où elle a déjà signé les partenariats avec les structures sanitaires et compte étendre l'action dans celle du Kasaï Central 2 dans les jours à venir. Kananga, André Katendengalamoulme, Radio Kapi.
Et puis, dans le Haut-Katanga, le coordonnateur provincial de la Commission nationale de droits de l'homme plaide pour l'isolement de 7 prisonniers de la Kasapa à Lubumbashi, souffrant de la tuberculose. Pour Joseph Kongolo, il y a fort à craindre au regard de la promiscuité dans laquelle vivent ces prisonniers qui sont en surnombre par rapport à sa capacité d'accueil. On écoute Joseph Kongolo, il est joint au téléphone par Jean Gandou.
Parmi les détenus dépistés, qu'il y a 7 cas de tuberculose multirésistante et ces 7 cas nécessitent un isolement de peur que les autres détenus soient contaminés. C'est pour nous l'occasion d'exhorter encore, d'inviter les décideurs au niveau national et au niveau provincial de penser à accomplir leurs obligations en matière de droits de l'homme et de manière spécifique à ce qui concerne les droits des personnes détenues. Et ici, nous parlons de l'obligation de respecter les textes qui à la matière, l'obligation de protéger les détenus et l'obligation de mise en œuvre des droits des détenus.
Actualité internationale.
Reprise timide des activités à Douala au Cameroun, 4 jours après l'annonce des résultats des élections. Les avocats du mouvement Stand Up for Cameroun évoquent au moins 1200 personnes gardées à vue à Douala, la capitale économique, 29 à Bafoussam dans l'ouest et 78 à Maroua dans l'extrême nord. Des arrestations à la suite de la proclamation de la victoire de Paul Biya par le Conseil constitutionnel lundi, annonce contestée par l'opposant Issa Turoma Bakari, qui revendique la victoire de son fief de Garoua.
L'invité.
Le Centre de recherche en finances publiques et développement local, CREFEDEL, recommande la dissolution du Fonds spécial de réparation et d'indemnisation des victimes des activités de l'Ouganda en République démocratique du Congo, FRIVAO. Christelle Ntimba, la chargée de communication de cet ASBL, membre du consortium Congo n'est pas à vendre, reproche à FRIVAO d'avoir échoué de remplir sa mission sociale. Elle s'entretient ici avec Blaise Ndongala.
Bonjour Madame Christelle.
Bonjour.
Le Centre de recherche en finances publiques et développement local vient de publier son rapport sur la gestion des FRIVAO et vous recommandez dans ce rapport la dissolution de cet établissement. Pourquoi avoir proposé cette mesure?
Déjà, c'est un organisme public qui a été créé par décret du Premier ministre et pour que cet organisme fonctionne, devrait bénéficier d'une dotation propre émargeant au budget de l'État, chose qui n'est pas le cas. FRIVAO a été créé depuis 2019 et de 2019 à 2025, les trésors publics n'ont mis à la disposition des FRIVAO aucun fonds pour son fonctionnement. La conséquence, c'est que pour que FRIVAO assure son fonctionnement, FRIVAO commence à puiser l'argent destiné à indemniser les victimes et payer les rémunérations, payer les frais de fonctionnement. Nous pensons que c'est irrégulier parce que le gouvernement n'a pas su respecter ses engagements. Il crée un organisme public mais ne met à la disposition de cet organisme aucun crédit pour que celui-ci assure son fonctionnement. Et le pire, c'est que FRIVAO reçoit de l'argent venu de l'Ouganda, de l'argent que cette institution gère. Automatiquement, cet argent, c'est l'argent du trésor public. Mais cet argent n'apparaît ni dans la loi des finances de l'année, ni dans la loi portant reddition des comptes de l'année, qui permet en fait aux citoyens d'avoir une photographie sur comment les fonds publics ont été gérés.
Vous ne craignez pas que la dissolution des FRIVAO sacrifie les victimes de la guerre de Kisangani?
Non, nous ne craignons pas parce que son existence a tout de même sacrifié. De 2022 à 2024, l'Ouganda a mis à notre disposition 195 millions de dollars américains, dont 105 millions de dollars américains devraient être payés aux victimes, c'est-à-dire aux personnes. Mais vous serez choqués de savoir que FRIVAO n'a payé que 2 millions de dollars. Et pendant ce temps, 4,2 millions de dollars ont été envoyés dans un bureau d'échange de monnaie. Et pendant cette même période, 1 500 000 dollars ont été retirés de façon injustifiée au niveau du ministère de la Justice. À quoi ont servi cet argent? Nous ne craignons pas parce que la présence des FRIVAO égale son absence. Il y a des instances, des entités habilitées à gérer ces fonds. Nous pensons que si la gestion des FRIVAO est confiée à la COGEBISCO ou au FOLUCO, par exemple, on aura des bons résultats parce que ces deux institutions émargent au budget de l'État.
Ces institutions sont gérées par quel ministère?
Ces institutions sont sous tutelle du ministère de la Justice et garde des Sceaux.
Disposez-vous des moyens de coercition pour faire reculer les détournements des deniers publics?
En tout cas, les seuls moyens dont nous disposons, c'est notre voix, c'est notre travail. Nous, en tant que citoyens, nous nous sommes engagés à faire le suivi de ces fonds et à publier des documents que nous transmettons à la justice. Nous avons franchi la première étape de faire parvenir nos rapports à la Cour des cassations. C'est vrai que le dossier est déjà entre les mains de la justice, mais il s'est pourrait qu'il y ait certains aspects qui ont échappé à la justice. Et dans notre rapport, nous sommes certains que la justice va trouver tous les éléments dont elle a besoin. Nous ne sommes pas la justice. Nous n'avons pas les pouvoirs de mettre aux arrêts, mais nous sommes disposés à fournir à la justice les éléments dont elle a besoin pour faire son travail.
Vous êtes sûr que cette même justice fera son travail aussi longtemps qu'elle est maintenue ou sous pression politique?
En tout cas, nous espérons que la justice fera son travail parce qu'il y a quand même une avancée significative et nous la saluons, celle de la condamnation d'un ancien ministre justement au sujet des FRIVAO et de la mise aux arrêts d'un des mandataires des FRIVAO, nous pensons que c'est déjà un pas. Et si la justice dispose de tous les éléments qu'il faut, nous pensons que cette justice-là peut aller encore plus loin.
Quelles sont selon vous les conséquences sur les plans sociaux de tels détournements?
Sur les plans sociaux, c'est d'abord l'injustice sociale. Nous avons des personnes qui ont été amputées, qui ont perdu des parcelles. Socialement, c'est l'injustice baisse et ça prive à la population les moyens de leur épanouissement, les moyens de leur survie. Les détournements, en fait, empêchent également le développement du pays. Parce que parmi les clauses de l'arrêt international de la justice, il y a également les indemnisations pour les dommages causés aux biens et aux ressources naturelles. La ville de Kisangani a été dévastée. Aujourd'hui, les routes sont impraticables. La province de la Tchopo fait partie de l'une des provinces les plus enclavées du pays. Il n'y a pas de routes, il n'y a pas d'eau, il n'y a pas d'électricité. Les détournements de ces fonds privent aux citoyens les biens de première nécessité, privent aux citoyens d'avoir accès aux infrastructures socio-économiques de base.
Madame Christelle Ntimba, nous vous disons merci.
C'est moi qui vous remercie.
C'est par ici que prend fin ce journal. Il a été coordonné par Richard Junior Kamunga sous la supervision de Lievin Mbwinga. Vubu Dieudonné Nyangassé à la mise en onde. Merci de l'avoir suivi. Merci de le réécouter sur notre site internet www.radiokapi.net.